morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
D'où vient-il? Comment est-il né? Par qui est arrivée la maladie? Les questions qui font se relever la nuit les chercheurs depuis deux ans que le monde entier vit rythmé par le Covid-19 et ses conséquences. Eh bien, vous verrez ce soir que nous avons des débuts de réponses très prometteurs, grâce notamment à une étude de l'Institut Pasteur qui commence au Laos, qu'on va vous raconter, et qui est passionnante. Le bruit du monde est en Irak ce soir, à quelques jours des élections. Les activistes, les journalistes, les avocats sont de plus en plus menacés. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Le Génie a trouvé des manifestations interdites à Kaboul, un scandale retentissant lié au Covid justement dans un hôpital du Brésil et une forêt rendue à ses propriétaires en Australie. 18h50, l'Europe tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique Bouin, le prix de l'énergie qui grimpe, est-ce que c'est à cause de l'Europe? 18h55, le monde d'après et Claude Guibal ce soir avec l'inexorable pourrissement des relations entre la France et l'Algérie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Marc Éloire.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du laboratoire découverte de pathogènes à l'Institut Pasteur à Paris. Vous avez signé avec d'autres une étude passionnante qui nous ramène donc à l'origine du Covid et tente de répondre à ces questions existentielles que nous avons depuis le début de cette pandémie. Tout cela nous ramène une fois de plus, décidément, sur la piste des chauves-souris, mais ça nous amène d'abord au Laos. D'abord, qu'est-ce que vous avez été faire au Laos? D'où ça vient?
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il existe un immense relief calcaire qui est partagé entre le nord du Laos, le nord du Vietnam et le sud de la Chine, qui contient beaucoup de grottes et dans ces grottes des chauves-souris. Et ça fait déjà longtemps qu'on pensait que ce type de chauves-souris pouvait héberger des virus proches du virus de SARS-CoV-2. Or, nous avions un long passé de collaboration avec l'Institut Pasteur du Laos, qui appartient au ministère de la Santé du Laos, et ça nous a permis de commencer ce travail de collaboration au Laos, parce qu'il était ouvert, accessible, ce qui aurait été plus difficile de l'autre côté de la frontière.
Alors, ça, on peut l'imaginer. Comment on a l'idée, et comment on se dit, c'est dans ces grottes-là, c'est dans cet endroit de calcaire qu'on risque de trouver des réponses? Parce qu'après tout, des chauves-souris, il y en a dans plein d'autres endroits. Ici, effectivement, particulièrement, mais pourquoi on se dit, ça, c'est un endroit intéressant?
Bien, tout part d'un travail en fait de gens qui sont spécialisés dans l'éthologie, dans les chauves-souris, dans leur classification, dans leur mode de vie. Et là, c'est un travail considérable qui est fait depuis des années par l'Université du Laos et par l'Institut Pasteur du Laos. Et tout est parti de ce travail-là.
Alors, avant de savoir ce que vous avez trouvé, dites-nous d'abord comment vous faites, vous capturez, vous prélevez, vous en capturez combien? Comment ça se passe? En fait, j'ai même appris, et j'ai trouvé ça presque drôle, que c'était des tests PCR en fait qu'on faisait aux chauves-souris au fond. Donc on n'est pas loin des nôtres, un petit peu différent probablement, mais j'ai quand même relevé ça dans votre rapport et ça m'a fait rire. Donc comment vous faites?
Alors, ce qu'ont fait les équipes sur le terrain, c'est effectivement de capturer des chauves-souris de différentes façons. La façon la plus fréquente étant de les capturer avec des filets. Et à partir du moment où elles sont capturées, on peut faire différents prélèvements du vivant des chauves-souris d'ailleurs, y compris des prélèvements de sang, des prélèvements de matière fécale, et elles sont relâchées ensuite.
Et combien? Enfin, c'est-à-dire, on
alors,
fait des études sur quel genre de quantité?
Dans cette étude, on en a prélevé environ 650 et une dizaine d'espèces de chauves-souris contenaient des coronavirus.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez trouvé? Parce que les chauves-souris contiennent des coronavirus, ça c'est une info qu'on avait déjà. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, qui nous emmène vers, sinon d'autres pistes, en tout cas qui nous permet de creuser cette piste-là?
Alors ce qu'on a trouvé, bon, il faut peut-être revenir un tout petit peu en amont sur ce qui fait qu'un coronavirus peut être dangereux pour une espèce ou pas, et en particulier pour l'homme. En réalité, sur un génome de 35 000 bases, de 35 000 lettres, il y en a environ une cinquantaine, simplement, qui détermine le tropisme du virus pour une espèce donnée. Et donc, ce qu'on a trouvé, tout simplement, ce sont des virus qui partagent beaucoup de communautés avec SARS-CoV-2 et en particulier possèdent une séquence qui code un mécanisme d'attachement pour les cellules humaines.
Je lis dans votre étude que plusieurs fragments du génome SARS-CoV-2 semblent provenir de plusieurs souches différentes et non dérivés d'un ancêtre unique. Ça veut dire qu'il y a des combinaisons, alors toujours autour de la chauve-souris. Est-ce que ça veut dire au fond que tout cela est beaucoup plus complexe d'ailleurs même peut-être qu'on le pensait au départ?
Alors c'est tout à fait le cas. En réalité, on ne cherchait pas vraiment le virus SARS-CoV-2 parce que c'est l'aiguille dans la botte de foin et la probabilité de réussite est certainement très faible. On cherchait simplement à vérifier que chez les coronavirus qu'on trouvait chez ces chauves-souris, il y avait des séquences qui, combinées les unes avec les autres, pouvaient virtuellement reconstituer un génome de SARS-CoV-2. Et de fait, ces virus recombinent, comme on dit, c'est-à-dire échangent leur matériel génétique extrêmement fréquemment et facilement.
Mais du coup, est-ce qu'on peut dire, alors il nous reste beaucoup d'interrogations, mais on sait que ça commence là, y compris géographiquement. Est-ce que ça, on peut le dire de manière certaine, peut-être pas, mais en tout cas avec un bon pourcentage de probabilité que c'est la vérité?
Tout dépend ce qu'on appelle là. Mm-hmm. Alors, les prélèvements faits au Laos sont représentatifs de l'ensemble de l'écosystème. Donc tout ne commence pas au Laos, mm-hmm. tout commence probablement quelque part au sein de ce relief qui fait des milliers de kilomètres carrés. Et donc tout commence probablement par une chauve-souris qui contient un virus qui a les capacités effectivement d'infecter directement l'homme. C'est en tout cas actuellement l'hypothèse la plus probable et ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de postuler l'existence d'un animal intermédiaire comme le pangolin.
C'est exactement ce que j'allais vous poser la question. On n'a pas besoin d'hôtes. Ce qu'on apprend surtout chez vous, c'est qu'on n'a plus besoin. On n'a pas besoin d'hôtes en fait.
D'hôtes intermédiaires. On n'en a plus besoin. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais on n'en a plus besoin. Et puis la deuxième chose qu'on apprend et que je n'ai pas encore dite, c'est que si on a bien trouvé la séquence qui détermine le tropisme du virus pour des cellules humaines, par rapport à SARS-CoV-2, manque une séquence qu'on appelle le site de clivage par la furine. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails-là,
non,
mais en tout
mais
cas, ce site-là...
J'ai bien vu qu'il y avait de la furine beaucoup dans votre rapport, en effet.
Alors, ce site-là gouverne en fait l'infectivité du virus pour les cellules épithéliales humaines. Autrement dit, est un corrélat de pathogénicité pour l'homme. Ce qui veut dire que les virus qu'on a trouvés, sous réserve de vérification qu'on est en train de conduire, sont probablement peu ou pas pathogènes dans leur état actuel pour l'homme.
Alors justement, pour comprendre bien ce que vous nous dites, en quoi ça nous aide à comprendre le basculement vers l'homme, donc le franchissement de la barrière de l'espèce?
Alors, il y a, comme souvent, plusieurs hypothèses, mais elles ont l'intérêt d'être testables et de pouvoir conduire à des travaux ultérieurs. Dans la première des hypothèses, des virus tels que ceux qu'on a trouvés, plus le site furine, existent dans les conditions naturelles, quelque part dans une grotte, il suffit d'étendre l'échantillonnage et peut-être on le trouvera. Dans l'autre hypothèse, ça veut dire que ce type de virus serait capable d'infecter l'homme, de s'y multiplier relativement silencieusement, sans symptômes majeurs, en tout cas pas ceux de SARS-CoV-2, et donc à l'occasion de cette multiplication, d'acquérir le site furine, et ça c'est un mécanisme moléculaire qui est parfaitement plausible.
Mais qui sont les gens qui sont en contact? Il y a des gens qui travaillent, j'imagine, dans cette zone dont vous me dites effectivement qu'elle est immense. Qui sont les gens qui y travaillent, qui y vivent, qui sont donc en contact avec ces chauves-souris-là, qui sont susceptibles d'avoir été contaminés, de l'avoir été comment? Est-ce qu'on a ces réponses-là?
Alors, on connaît les modalités d'interaction de personnes qui vivent dans ces zones. Alors, ces zones, ce sont des reliefs calcaires et puis des cultures également. Donc, des hommes y vivent et y habitent. Et il y a plusieurs circonstances de contact. L'une d'entre elles, c'est le travail, parce que ces chauves-souris, leurs excréments, qu'on appelle guano, est extrêmement riche en phosphore et sert de fertilisant, d'engrais.
D'accord, donc on le ramasse régulièrement. En fait. D'accord,
okay. Une autre circonstance, c'est que les chauves-souris sont consommées. Et donc, c'est pas tant la consommation de viande cuite que les opérations de boucherie, de dépeçage, etc. Mmh. Et puis, il existe une activité croissante qui est le tourisme dans les grottes et qui peut mettre en contact, évidemment, avec des chauves-souris.
Si c'est le fait de ramasser, par exemple, qui peut être le contaminant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le contact avec, c'est le simple contact avec, avec la peau qui est contagieux? Qu'est-ce que ça veut dire,
non,
en fait?
Non, probablement pas. Les virus ne passent pas la peau saine, en tout cas. Aucun virus ne passe la peau saine.
C'est pour ça que je m'interroge, ouais.
Par contre, des matières en suspension, dans l'air, quand on marche, quand on soulève, des personnes vivent également dans les grottes pour des raisons religieuses et donc les chauves-souris sortent toutes les nuits et quand je dis des chauves-souris, ce sont des nuages de chauves-souris, c'est considérable.
Marc Éloi, tout ça ne date pas de 2019, il y a eu des centaines de milliers de chauves-souris dans ce coin-là depuis très longtemps, des gens qui y travaillent aussi depuis très longtemps. Donc du coup je m'interroge pourquoi subitement il se passe quelque chose en 2019. Est-ce qu'on considère que, pardon de le dire comme ça, c'est pas très scientifique, c'est la faute à pas de chance, ou est-ce que on peut imaginer que le virus a muté, est devenu plus contagieux? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit maintenant que les choses aient provoqué une pandémie?
Les virus mutent tout le temps, donc la faute à pas de chance, c'est tout à fait une bonne formule. Des émergences, il y en a à peu près tous les 10 ans, si on parle de coronavirus, et à chaque fois, c'est un événement qui était très aléatoire et qui s'est produit. Alors généralement, c'est la conjonction de virus à potentiel à risque pour l'homme et le fait que l'homme rentre dans les écosystèmes correspondants ou au contraire qu'on transporte des écosystèmes au sein de mégalopoles, par exemple. Alors ensuite, Nous, on a essayé d'identifier ce qui pouvait se rapprocher le plus d'un virus évoluant naturellement dans un réservoir. Ce réservoir-là, il est à 1500 km de Wuhan.
Exactement, j'allais vous poser la question, comment il a voyagé? Alors, est-ce qu'on sait comment il a voyagé? Est-ce que c'est tout simplement les hommes qui voyagent
On ne sait pas comment il a voyagé, mais tous ces virus, de toute façon, à ces distances-là, voyagent par avion, en quelque sorte. Ensuite, qu'est-ce qui a voyagé? Un virus, une personne infectée, un animal infecté, on n'en sait rien en réalité. Ce qu'on devrait apprendre à savoir, et qu'on le saura probablement bientôt, c'est si déjà des personnes en contact ont pu être infectées par ce type de virus, parce que maintenant on a les outils pour le vérifier.
Est-ce que vous avez le sentiment que cette origine réelle, on va dire, enfin en tout cas ce qui semble être désormais l'origine géographique réelle, est-ce que ça veut dire qu'il faut pousser dans ce coin-là, qu'il y a d'autres choses à aller tirer, si je puis dire, de ces fameuses chauves-souris-là, ou est-ce que ce travail-là il est fait, et maintenant il faut essayer d'avancer pour savoir dans quelles conditions il y a eu transmission, etc. Est-ce qu'il y a encore à aller creuser dans les grottes?
Alors il y a à aller creuser, comme vous dites, dans les grottes, il faut absolument compléter les investissements. Que ça soit d'ailleurs au Laos, au Nord-Vietnam ou au sud de la Chine. Ça, c'est absolument indispensable. Ensuite, le reste tient presque de l'enquête policière, en réalité. Il y a au moins deux hypothèses qu'on peut tester. La première, celle que j'évoquais, est-ce que des circulations silencieuses de ce type de virus existent chez l'homme ou pas? Parce que ça conditionne des hypothèses.
Donc ça veut dire que tout le monde a été, pardon de d'être un peu béotienne, ça veut dire que tout le monde a été parfaitement asymptomatique jusqu'à ce qu'une mutation fasse que le virus soit plus virulent. En gros, c'est ça que ça veut dire?
Oui, en considérant que c'est une hypothèse de travail.
Ouais, bien sûr.
Rien n'est vérifié à ce stade.
Bien sûr. Et l'autre, donc vous disiez
C'est que un virus déjà virulent, déjà complètement préadapté à l'homme avec son site furine, existe quelque part et qui a plus qu'à reconstituer en quelque sorte une chaîne de transmission directement de la chauve-souris à l'homme ou éventuellement un animal intermédiaire. En tout cas, on sait maintenant quel est le point de départ qui était fortement suspecté. Là, il est, disons, validé.
Est-ce que ça veut dire que définitivement la thèse de l'origine animale est accréditée, parce qu'il y a eu beaucoup, on a entendu un peu beaucoup de choses là-dessus, et notamment d'ailleurs celle de la thèse du laboratoire qui est revenue, repartie et puis revenue. Est-ce que votre étude permet de dire oui, l'origine est bien animale?
Alors, l'origine du virus, en grande partie, on peut dire oui, l'origine de l'épidémie, c'est autre chose. L'origine du virus, pratiquement, on a trouvé toutes les séquences nécessaires, encore une fois, sauf le site furine. Donc le site furine, on ne peut rien dire que une origine naturelle est possible, ça ne veut pas dire que c'est cette origine qui est celle qui a déterminé l'existence de ce virus recombinant. Quant au fait que ce virus atterrisse à Wuhan, voyageur, random, aléatoire, animal infecté, transite par le laboratoire de Wuhan, personne n'est capable, en tout cas pas moi, de répondre.
Ça veut dire que même si on sait effectivement que l'origine est dans ces fameuses grottes calcaires, après, il y a de multiples hypothèses pour savoir comment la transmission a eu lieu et comment on en arrive à ce type de pandémie.
Exactement, il y a de multiples hypothèses. Évidemment, il y a un phénomène que tout le monde a vu depuis le début, c'est cette espèce de coïncidence qui fait que cette émergence arrive dans un des rares villes dans le monde où un laboratoire travaille sur des coronavirus de chauve-souris. Maintenant, les coïncidences en biologie, ça existe aussi, et ce n'est pas une preuve.
Mais qu'est-ce qu'on va aller rechercher désormais? Vous dites qu'il faudra y retourner dans cette grotte calcaire. Qu'est-ce qu'on va y chercher désormais? Qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on pourra aller chercher si on y retourne, si on refait des prélèvements?
Alors, dans l'hypothèse du virus créé par un laboratoire qu'on a beaucoup entendu, il y avait deux aspects. Il y avait ce récepteur de liaison cellule humaine qui paraissait tellement efficace d'emblée. Et là, on le trouve dans les conditions naturelles. Donc ça tombe. Et donc, l'autre aspect, c'est à nouveau ce site furine. Si on le trouve dans les conditions naturelles, l'hypothèse de la création au laboratoire tombe, ce qui veut pas dire que le relais ne soit pas passé par une culture au sein d'un laboratoire.
Ce que vous nous dites, Marc Éloi, c'est que dans cette zone que vous nous avez décrite, qui fait, vous m'avez dit, plus de 2000 km², c'est ça?
Des milliers de kilomètres carrés, je ne peux pas calculer, mais centaines de kilomètres dans un sens et dans un autre.
Et vous nous parlez de nuées de chauves-souris, ça veut dire que le chiffre est faramineux. Est-ce que ça veut dire que potentiellement, et au milieu de ces chauves-souris qui sont là, il y a un Covid-22, un Covid-23 qui peut émerger en 2022, en 2023, etc. Est-ce que c'est ça aussi la leçon? Est-ce qu'il faut qu'on retienne?
Alors, c'est certainement une leçon à retenir, je dirais, malheureusement pour les autorités laotiennes qui faisaient du tourisme dans les grottes une activité de croissance possible. Il est certain que c'est une activité maintenant qui va être considérée comme un risque. Donc une des conséquences premières, c'est évidemment de limiter le contact des individus, des personnes avec des chauves-souris, bien sûr.
En quoi vous diriez que cette étude de l'Institut Pasteur donc permet d'avancer vraiment, de faire un vrai pas de géant? Après cette étude-là, on peut vraiment faire un pas sur l'origine, on finira par arriver à répondre à ces questions dont je parlais parlé au début, où, quand, comment tout cela a commencé. Le pas que vous faites là, est-ce que c'est un pas de géant?
Bon, moi, je le qualifierais pas de pas de géant. Non, parce que. Mais dans une épidémie, dans une émergence, connaître le début, connaître le réservoir initial, bah, c'est le début de l'histoire, c'est déjà beaucoup.
Voilà, et vous l'avez dit, c'est comme une enquête policière, et j'entends bien que vous la suivez tous. Marc Éloi, responsable du laboratoire découverte de pathogènes à l'Institut Pasteur. Merci beaucoup.
Merci.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Irak, avant les élections, alors que de nombreux activistes sont menacés de mort. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars, Sébastien Logénine.
Scandale sanitaire au Brésil, un groupe de santé privée utilisait des malades du Covid comme cobayes humains.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est vous Angélique Boin, bonsoir.
Bonsoir, le prix du gaz et de l'électricité augmente, est-ce la faute de l'Europe? Que peut faire Bruxelles? Eh bien pour l'instant, Fabienne, pas grand-chose.
Le monde d'après, Claude Guibal, bonsoir à vous.
Bonsoir, et nous on ira en Algérie où l'escalade des tensions avec la France n'a jamais été aussi forte depuis très très longtemps.
Ne bougez pas les amis, mais laissez tout de même le tour de la planète faire une petite escale aux États-Unis. Silk Sonic Skate sur France Inter, c'est le duo de Bruno Mars et Anderson .Paak. Le bruit du monde ce soir est en Irak, qui se prépare pour des élections anticipées qui auront lieu dans quelques jours, alors qu'une révolte populaire, vous vous en souvenez peut-être, a fait tomber le Premier ministre, c'était juste avant le Covid en 2019. Mais la campagne électorale ne se passe pas vraiment comme prévu. Une vague d'assassinats visant les militants du mouvement populaire a pris des proportions incroyables ces derniers mois. Des dizaines d'activistes, de journalistes, d'avocats ont été tués, enlevés ou menacés. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée, mais ces Irakiens accusent les groupes paramilitaires très puissants en Irak. Nous allons à Kut, c'est dans le sud du pays, à la rencontre d'un de ces militants qui a survécu à une tentative d'assassinat. Le reste, c'est Lucille Wasserman qui raconte, et vous allez entendre, ça n'a pas été sans mal.
Au poste de police de Kut, dans le sud de l'Irak, c'est l'une des affaires non élucidées. Celle de Qassem Al-Tamimi, l'un des principaux organisateurs de la révolte en 2019, visé par des hommes armés le 8 août dernier. Installé derrière son bureau, le commandant en chef ne semble pas très à l'aise.
Ça s'est produit il y a un mois ou plus, et il y a encore des points d'interrogation concernant la véritable accusation, voire, disons, l'authenticité des accusations ou de qui est vraiment derrière.
Plusieurs rapports publiés par d'autres forces de sécurité font pourtant état d'une tentative d'assassinat en bande organisée et rappellent que ce n'est pas la première fois que ce militant est visé. À deux reprises, dans le passé, des grenades assourdissantes ont été posées devant son domicile. Il est 8h du matin et nous avons rendez-vous avec Qassem Al-Tamimi à 9h, mais soudain, l'interview prend une autre tournure. Le commandant en chef refuse que nous allions rencontrer le militant.
Arrêtez d'enregistrer maintenant. Arrêtez.
Chargée d'enquêter sur ces crimes, la police est souvent accusée de faire régner un climat d'impunité en Irak. Plus de 30 militants sont morts ces deux dernières années dans le pays et presque aucun assaillant n'a été retrouvé à ce jour. Après une heure de négociations et de nombreux coups de fil au ministère de l'Intérieur, nous obtenons finalement l'autorisation de rencontrer Qassem Al-Tamimi. Il nous accueille chez lui, dans une maison très sommaire. Son large sourire contraste avec la fatigue qui se dessine sur son visage chétif.
Je pense que les forces de sécurité savent très bien qui m'a visé et qu'il y a un accord avec les assaillants pour que cela ne se sache pas. Je ne dis pas que les forces de sécurité sont derrière l'attaque, mais elles font face à des pressions et à des intimidations.
Qui, alors, en veut à ce point aux militants du pays ? Selon ces Irakiens, seules les milices chiites ont suffisamment d'influence pour agir en toute impunité. Critiqués lors de la révolte en 2019, ces groupes armés veulent faire taire les voix dissidentes, selon Qassem.
Elles utilisent l'Irak comme un terrain de jeu pour régler leurs comptes et pour faire passer leurs intérêts avant les intérêts du peuple et la sécurité. Aujourd'hui, je ne peux compter que sur moi-même et sur l'aide de ma tribu qui se relaie pour assurer ma sécurité. C'est devenu un camp militaire chez moi.
À quelques jours des élections législatives, ce climat délétère pèse particulièrement sur la campagne électorale. Outre les militants, plusieurs candidats issus du mouvement de contestation ont été menacés. L'un d'eux, Sajjad Salim, la trentaine, nous accueille à son domicile.
Personnellement, je continue la campagne. Car c'est exactement ce qu'ils veulent, nous faire taire et leur laisser la voie libre aux élections. Tout cela affecte énormément la démocratie dans le pays. Mais nous sommes sortis pour réclamer nos droits en 2019 et cela a fait avancer les choses. Il faut continuer.
Un combat qui ne peut mener qu'à deux possibilités selon ce novice en politique qui n'a cessé de manifester en 2019.
Soit ceux qui ont le pouvoir en Irak acceptent que les manifestants font partie du pays et qu'ils ont le droit d'avoir une représentation politique. Dans ce cas, on peut espérer une amélioration de la situation. Soit ce n'est pas le cas et le pire adviendra.
En attendant, ces candidats et militants ne se découragent pas à changer le visage de l'Irak par la voie démocratique malgré les risques pour leur vie.
Lucille Wasserman dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Lucille. On viendra sur ces élections irakiennes dans très peu de temps dans Un jour dans le monde. Le bruit du monde, la suite, c'est ce que l'actualité internationale a laissé sous les radars et que Sébastien Nogeny a dégoté. Et nous voilà dans les rues de Kaboul, Sébastien, où manifester est désormais interdit.
La preuve avec cette scène qu'ont réussi à saisir ce matin nos confrères de l'AFP en Afghanistan. Il est 8h du matin à Kaboul ce jeudi quand trois jeunes femmes voilées déplient devant un lycée pour filles une banderole écrite en dari et en anglais. On peut y lire « Ne politisez pas l'éducation, ne brisez pas nos stylos, ne brûlez pas nos livres ». On le sait, depuis leur arrivée au pouvoir, les talibans interdisent toute mixité dans les établissements scolaires. Seules les plus jeunes filles de 7 à 13 ans ont le droit de se rendre en classe, mais pas les autres, ni les lycéennes, ni les étudiantes, suspendues au bon vouloir des fondamentalistes. Ce matin donc, trois jeunes femmes décident de manifester leur désaccord en pleine rue. Trois autres femmes les rejoignent, elles sont 6 au total, silencieuses, banderoles à la main, mais elles ne resteront là que quelques minutes à peine, le temps qu'une dizaine de talibans interviennent par la force. On les entend ici interrompre ce petit rassemblement. Ils repoussent les jeunes filles violemment contre les portes du lycée et s'en prennent aussi aux journalistes, caméramans et photographes qu'ils empêchent de filmer. Et puis soudain, pour disperser la foule, une brève rafale de pistolets mitrailleurs tirés en l'air, suivie d'une explication musclée avec les journalistes encore présents. Cette manifestation n'était pas autorisée, disent les talibans. Je vous rappelle, ajoute leur chef, que dans des pays modernes comme la France, la police frappe les manifestants. Fin de l'histoire. Toutes les manifestations ont été interdites en Afghanistan depuis 3 semaines.
Direction le Brésil, Sébastien, où un nouveau scandale sanitaire secoue le pays.
C'est une affaire qui fait la une des JT depuis 2 semaines.
Documentos enviados à CP da COVID.
L'histoire est la suivante. Il y a un mois, un groupe de médecins lanceurs d'alerte transmet à la justice 10 000 documents administratifs. Un dossier explosif qui accuse l'un des plus grands prestataires privés de santé du pays. Cette société Prevent Senior possède une chaîne d'hôpitaux s'occupant tout de 500 000 patients, principalement des personnes âgées. Or, d'après les documents, pendant la pandémie de Covid, des patients ont été utilisés comme cobayes humains. Prevent Senior obligeait notamment ses médecins à prescrire de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine aux malades sans leur demander leur consentement. Et alors que ces deux médicaments n'ont jamais prouvé leur efficacité, les patients repartaient ensuite chez eux sans être hospitalisés et les chiffres des décès dus au Covid étaient dissimulés. Enfin, les médecins auraient reçu pour instruction de réduire l'apport en oxygène aux malades qui étaient en soins intensifs depuis plus de 10 jours. Un scandale qui est désormais entre les mains du Congrès brésilien et de la police. Les enquêteurs qui s'interrogent sur de possibles motivations politiques et idéologiques de l'entreprise. Véritable courroie de transmission du discours du président Bolsonaro. Rappelons que 600 000 personnes sont mortes du Covid au Brésil.
Et on termine au cœur d'une forêt australienne.
La forêt de Daintree au nord du pays, considérée comme la plus vieille forêt du monde. 135 millions d'années inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment pour ses espèces végétales et animales rares et anciennes. Et bien cette merveille naturelle, jusqu'ici propriété de l'État australien, a été rétrocédée hier à une tribu aborigène qui vit encore au cœur de cette forêt, une cérémonie présidée par la ministre australienne de l'Environnement. La plus ancienne forêt tropicale du monde, explique Megan Scanlon, est rendue la plus ancienne culture vivante du monde pour qu'elle la protège. Aujourd'hui, nous rendons plus de 160 000 hectares de terre au peuple aborigène, le véritable gardien, dit-elle, de ces terres depuis des milliers et des milliers d'années. Le parc sera d'abord géré conjointement avec l'État australien, puis placé sous la responsabilité exclusive des aborigènes, une étape décisive et symbolique dans le long processus de réconciliation entre les communautés, entre les descendants des colons européens et les autochtones, les colons qui ont posé le pied en Australie pour la première fois il y a plus de 2 siècles, c'était en 1788.
Merci beaucoup Sébastien Nogeny, sous les radars revient tous les soirs dans Un jour dans le monde. Vous repartez bien accompagné, tiens, avec Diana Krall, Just One of Those Things sur France Inter.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things.
was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear amen. Here's hoping we'll meet now then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things.
Just one of those things, Diana Krall sur France Inter. Et si on allait à Bruxelles ?
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, comme chaque jeudi dans Un jour dans le monde, d'une crise à l'autre. Angélique Boin, ce qui en ce moment agite les Européens, c'est la hausse vertigineuse des prix de l'énergie.
Eh oui, avec cette petite musique qui monte dans certaines capitales. Est-ce la faute de l'Europe ? Est-ce la faute à ce marché unique de l'énergie que Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, dit vouloir revoir de fond en comble, car, a-t-il déclaré, il est obsolète. Et puis il y a cette autre musique à Bruxelles cette fois, où certains redoutent que cette hausse des prix ne freine finalement les ambitions écologiques de certains États membres, car un cinquième de l'augmentation de ces prix, un cinquième seulement, mais un cinquième tout de même, résulte de notre politique climatique. C'est ce qu'a admis le vice-président de la Commission, Frans Timmermans. Mais cela doit nous pousser justement, a-t-il ajouté devant les eurodéputés, à décarboner au plus vite notre économie. Plus le prix du gaz est cher, Fabienne, plus on pousse en effet les industriels à se tourner vers une énergie propre. Alors on le voit, on l'entend, les dirigeants européens sont inquiets face à cette inflation.
Alors bon, pourquoi certains renvoient-ils la balle vers l'Europe et son marché de l'énergie qu'il faudrait revoir ?
Eh bien, pour vous répondre, je vais essayer de faire simple, parce que c'est un dossier extrêmement compliqué. Si on prend, par exemple, le prix de l'électricité, dont on nous dit, Fabienne, qu'il va aussi flamber en Europe, eh bien, il faut savoir qu'on a mis en commun, il y a quelques années, une partie de notre production, comme on l'avait fait à une autre époque avec la CECA, la Communauté de l'Acier et du Charbon. On a interconnecté nos tuyaux tous ensemble, et on a établi, en quelque sorte, pour faire court, un prix de gros sur une partie de cette électricité qui circule au sein de l'Union, selon les besoins des uns et des autres, et puis selon aussi des priorités. On se partage d'abord l'électricité qui est produite par l'éolien, le solaire, puis le nucléaire. Enfin, on va chercher celle produite par les centrales à charbon ou à gaz. Et le prix, eh bien, c'est celui de l'électricité qui est alors la plus chère à produire. Et en ce moment, c'est celle qui sort des centrales à gaz, car le gaz naturel est très cher. Ce prix de gros est donc très cher. Beaucoup plus, en tout cas, que celui de l'électricité qui est produite par nos centrales nucléaires. Voilà pourquoi la France demande à l'Europe de réformer ce système. Rien ne justifie, a redit encore ce matin Bruno Le Maire, que les consommateurs français aient à payer le coût de production de ces centrales au gaz, alors que nous, on a misé sur le nucléaire.
Mais le réformer, pas supprimer, c'est ça ?
Ah non, parce que sans ce marché commun, on aurait quand même des petits soucis pour se chauffer. Hein. Par exemple, Bruno Le Maire omet tout de même de rappeler dans ses interventions récentes eh bien qu'au cœur de l'hiver, hein, très régulièrement, on a besoin de l'énergie produite par nos voisins, que ce marché européen de l'énergie nous permet aussi d'écouler notre surproduction, que ça permet parfois de payer moins cher notre électricité. Bercy propose donc de réformer pour essayer de stabiliser les prix, en fait, de supprimer ces yo-yos qui sont problématiques pour les consommateurs. Alors au passage, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, la France va profiter de cette crise pour pousser le nucléaire comme énergie de transition, un sujet, vous le savez, de discorde au sein des 27.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et la Commission européenne, Angélique, à court terme, est-ce qu'elle peut intervenir ?
Eh bien non, parce que ce n'est pas dans ses compétences, mais eh bien pour éviter un peu de l'Europe bashing qu'on entend un peu à droite à gauche, elle a pris les devants et elle s'apprête à rendre publique la liste de tout ce que les États membres ont le droit de faire sans être sanctionnés dans ce domaine, baisser les taxes, distribuer des chèques énergie, dont plusieurs pays d'ailleurs, dont la France ont commencé à le faire. On attend d'ailleurs de nouvelles annonces ce soir. À long terme, en revanche, eh bien la Commission, elle peut faire plein de choses. Elle est au cœur de cette transition énergétique voulue par tous les États membres, de notre souveraineté énergétique est un très gros dossier. Et on l'a appris ce soir, eh bien, le dossier s'invitera à la table du sommet européen avec les 27 dirigeants les 21 et 22 octobre prochains. Nul doute, Fabienne, qu'on va donc en reparler.
Eh bien, ce sera ici aussi. Angélique Bouin, merci beaucoup. À jeudi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Claude Guibal ce soir. Claude, en Algérie, dont les relations avec la France ne cessent de se dégrader. Alors c'est certes pas le premier accro de cette très longue histoire compliquée que nous avons, mais les relations ont rarement été aussi mauvaises.
Oui Fabienne, et on l'a bien senti avec la convocation hier de l'ambassadeur de France à Alger. L'ambassadeur sommé de s'expliquer sur cette annonce de Paris de réduire le nombre de visas accordés à l'Algérie, une décision prise en réponse aux freins mis par Alger pour le retour sur son sol des Algériens expulsés de France. Alors, oui, le sujet n'est pas nouveau, mais le ministre algérien des Affaires étrangères a cette fois reproché vertement à Paris de n'avoir pas consulté Alger et regretté, je cite, un tapage médiatique générateur de confusion et d'ambiguïté. Alors Fabienne, on ne va pas refaire ici ce soir l'historique de cette relation si compliquée entre la France et l'Algérie, mais il faut bien comprendre que ce nouvel épisode, eh bien, il intervient après des mois de tensions à peine larvées. En juin, souvenez-vous, l'Algérie retirait ainsi l'accréditation de France 24, France 24 perçue là-bas comme la voix de Paris, France 24 qui a été accusée d'hostilité, de désinformation, de manipulation à l'encontre de l'Algérie.
Alors ça va mal, d'accord, mais pourtant Emmanuel Macron, on s'en souvient bien, voulait faire de son mandat celui de la refonte de la relation avec l'Algérie.
Oui, une relation nouvelle, parce que premier président à être né après la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron estime que ça lui donne finalement davantage de liberté que ses prédécesseurs pour se confronter à cette question mémorielle. Mais ça, c'est peut-être sans avoir pris suffisamment la mesure de ce que ces 10 dernières années ont en fait provoqué en Algérie. Parce que il y a eu les printemps arabes, il y a 10 ans, qui ont crispé le pouvoir algérien, qui se sent menacé par tous ces changements de régime à ses portes, que ce soit en Libye, en Tunisie, au Mali. Il y a eu la chute des prix du pétrole qui a fragilisé son économie. Il y a la colère de la population incarnée par la révolte pacifique du Irak, qui a certes mené à un changement avec l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune à la tête du pays. Mais ça, c'est sans avoir apporté les changements espérés. Vous le savez, la répression continue, notamment sur l'opposition kabyle, dont Paris refuse d'extrader vers l'Algérie des principaux représentants. On le sait, Fabienne, pour l'Algérie comme pour la France, le poids des fantômes de la colonisation, c'est un instrument bien utile, qui plus est en période électorale. La demande de pardon d'Emmanuel Macron au Harki, il y a 10 jours, ainsi été reçue avec un mépris silencieux, on dira, à Alger. C'est une affaire purement franco-française, a-t-on commenté. L'annonce de la diminution des visas a, elle, été perçue comme un gage électoraliste en direction de la droite et de l'extrême droite française dans le débat sur l'immigration.
Voilà, sauf que ça, c'est pas nouveau non plus.
C'est vrai, c'est un classique de la relation franco-algérienne, tout comme le fait que les dirigeants algériens, eux, ont toujours bien compris que les tensions avec la France et les menaces internationales étaient bien le seul sujet sur lequel ils pouvaient parvenir à fédérer derrière eux la majorité de leur population. Or, les récents changements régionaux fragilisent énormément la puissance algérienne. Cet été, la normalisation par le Maroc de sa relation avec Israël en échange de la reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara occidental par les États-Unis a provoqué la fureur des Algériens. Rupture des relations diplomatiques, cette tension alarme Paris qui voit sa zone d'influence au Maghreb s'atomiser.
Et puis la semaine dernière, l'interdiction de survol du territoire algérien aux avions marocains civils et militaires a d'ailleurs, Claude, marqué une nouvelle escalade inquiétante.
Oui, les dirigeants algériens ont visiblement cherché là à réaffirmer leur position de force, d'autant que le pouvoir algérien a bien compris quelque chose, c'est que la perte de puissance de la France au Maghreb et au Sahel l'oblige à chercher de nouvelles perspectives. Après le Maroc, qui s'affranchit donc de la tutelle française en se rapprochant d'Israël et de son parrain américain, il y a surtout le Mali au sud, qui lui aussi défie Paris en négociant désormais ouvertement avec la Russie des accords militaires. L'arrivée de ces nouvelles puissances dans l'ancien précaré de la France rebat les cartes pour Alger. Et c'est un jeu, Fabienne, qui peut être lourd de conséquences.
Claude Guibal et Le Monde d'après. Merci beaucoup, Claude. Le 18-20 continue avec le journal de 19h, celui d'Hélène Philly. Et puis juste après, le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous. On est heureux d'accompagner la vôtre. À tout de suite.